Le rococo, XVIIIe siècle. Dérivé de rocaille, le terme rococo fait référence au nouvel élément décoratif qui, au XVIIIe siècle, s'inspire des formes asymétriques du coquillage. Ces motifs finissent par gagner la décoration extérieure de l'architecture et ornent parcs et rez-de-chaussée des demeures princières. Le décor joue un rôle dominant dans la vie mondaine et devient une composante du bonheur à laquelle cette époque aspire. Peinture et sculpture s'adaptent à l'intimité des appartements. La technique du pastel atteint alors son apogée. Au cours de la régence de Philippe d'Orléans, l'art européen évolue. La lourdeur somptueuse du baroque s'allège, les formes angulaires laissent place à des arrondis, le style régence atteint son apogée aux alentours de 1720. L'influence de l'Extrême-Orient sur le goût européen est notable. On voit naître des chinoiseries et autres tapisseries décorées dans la gamme délicate des teintes chinoises, avec des motifs, des paysages et des personnages chinois. Un peu avant le règne de Louis XVI, le goût revient au classicisme en reprenant la tradition de Louis XIV, mais avec des proportions plus harmonieuses et un sens impeccable de la mesure, ce qui lui donne un aspect un peu froid. En Europe, le mécénat s'est alors généralisé. Les artistes bénéficient du mécénat des princes d'Allemagne et d'Italie, des rois de Prusse et de Suède, ou de grands bourgeois comme le financier Crosa, protecteur de Watteau. En France. C'est en France que la peinture rococo va atteindre son paroxysme. En 1750, le roi permet au public de contempler les collections du Louvre et du Luxembourg. La critique d'art débute. Les plus célèbres manifestations en seront les salons de Diderot. Trois peintres dominent cette période. Durant sa courte vie, Antoine Watteau, 1684-1721, travailla sans relâche, produisant plus de 700 tableaux. Fils d'un charpentier maître couvreur, il montre très jeune des dispositions étonnantes pour le dessin, prenant plaisir à aller sur les places publiques, représenter des saltimbanques sur ses carnets de croquis. Le plus éminent successeur de Rubens travaille à la couleur et représente la haute société de son époque dans des fêtes, des scènes de fontaines, des paysages vaporeux et mélancoliques, voire par exemple l'embarquement pour Cythère et l'enseigne de Gersin. L'œuvre de Jean-Honoré Fragonard, 1732-1806, disciple de Boucher, témoigne, outre de la période rococo, du renouvellement de la thématique des fêtes galantes. Fragonard possède plus que d'autres imagination et inspiration. Son travail reste académique, inspiré de la manière religieuse des anciens. Il représente une nature chère à Rousseau et qui annonce la poésie préromantique. La peine d'amour, les baigneuses, la poursuite et l'amant couronné. Considéré comme l'un des plus grands portraitistes de son temps, Maurice Quentin de la Tour, 1704-1788, utilise à l'extrême la nouvelle technique du pastel et célèbre l'exquise Mademoiselle Fell et son amie, la reine Marie Leginska, Madame de Pompadour, les gens de la cour et les écrivains comme Voltaire et Jean-Jacques Rousseau.
Un peu de technique. À l'eau, à l'eau. La technique de la peinture à l'eau est pratiquée de l'Antiquité à nos jours, sous des formes diverses. Son succès tient à sa délicatesse et à la possibilité de corriger ses erreurs, ce que l'on nomme en peinture les repentirs. Parmi les techniques les plus employées, on recense la détrempe, une peinture à base de pigments colorés, d'eau et de colle de peau. La tempéra est une émulsion qui remplace la colle par de l'œuf, plus tard employée pour les papiers peints. La gouache, technique des enluminures et des manuscrits du Moyen-Âge, très employée dans les peintures chinoises, japonaises, indiennes, est une détrempe constituée de pigments colorés. L'aquarelle, connue dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, en Égypte, est une peinture à base de couleurs, d'eau et de gomme arabique. Pisanello, Durer, Fragonard utilisent ces couleurs diluées à l'eau étalées sur un support encore humide. Les peintres abstraits comme Kandinsky, Klee, mettent en avant les hasards de ces fluctuations liquides.
en Angleterre. La peinture anglaise du XVIIIe siècle est dominée par plusieurs noms. Bien que portraitiste, la vision réaliste et l'art franc de William Hogarth l'éloignent de la tradition. Ces tableaux révèlent une intense observation des êtres, de leurs mœurs et de leurs comportements. La peinture a pour lui un rôle moralisateur. Avec le mariage à la mode, il critique les mœurs et coutumes disgracieuses. Il réalise également un grand nombre de portraits et de croquis, Lord George Graham dans sa cabine. Portraitiste de grand talent, il ne réalisa pas moins de 8 portraits de George III, Thomas Gainsborough, 1727-1788, a su souligner les caractéristiques psychologiques en peignant les visages comme dans les sœurs Linley. Il peut être tout aussi mélancolique et solennel lorsqu'il évoque la campagne anglaise, avec la charrette du marché notamment. D'origine modeste, William Turner, 1775-1851, a une formation de topographe et se spécialise d'abord dans les vues pittoresques à l'aquarelle et à l'huile. Travailleur acharné et, dit-on, âpre au gain, dont les aquarelles sont restées longtemps méconnues, il est réputé pour son ciel flamboyant où il mêle l'or à la lumière au point de rendre indistincts les contours des monuments enveloppés d'une brume dorée comme Didon construit en Carthage ou l'incendie du Parlement. En Italie. L'Italie au XVIIIe siècle perd son rôle phare dans l'art pictural européen. Ces grands peintres se sont figés dans la tradition du baroque tardif. Mais à Venise, qui demeure un centre de vie mondaine et intellectuelle, intervient une coupure avec les représentants de la tradition, grâce à plusieurs noms. Au centre de cette effervescence artistique, Giambattista Tiepolo. Une des caractéristiques de son art est sa façon de rendre la lumière. Il utilise une gamme chromatique très chaude pour évoquer les fêtes et les carnavals à Venise. Il peint en 1745 l'histoire d'Antoine et Cléopâtre, dans le salon du Palais Labia. Entre 1750 et 1751, il décore et orne le grand escalier de la résidence Vurbourg. De 1757 datent l'Iliade, l'Énéide et Roland Furieux. Invité par Charles III, il meurt à Madrid. Antonio Canal, surnommé Canaletto, 1697-1768, sait rendre parfaitement les aspects les plus brillants de la cité des Doges. Il reproduit le mouvement et la vie du Grand Canal, San Giorgio Maggiore et la douane de Venise. Il rend avec tout autant de délicatesse les paysages d'Angleterre au cours des 3 séjours qu'il y fait. Francesco Guardi, 1712-1793, annonce par ses représentations fantasmagoriques la période romantique. Mais son art reste néanmoins en parfait accord avec le rococo. Il rentre à l'Académie d'art de Venise à 70 ans. Nombre de ses peintures portent sur le Grand Canal en activité. Le Pont Rialto et Palais Camerlenghi, Santa Maria della Salute, Regate. En Espagne. Les tableaux de Francisco de Goya y Lucientes, dit Goya, symbolisent parfaitement le goût du populaire propre aux dernières décennies du rococo. En 1798, il décore l'ermitage de San Antonio de la Florida, mêlant à la grandeur baroque certains effets de grâce du rococo. Mais ses œuvres les plus significatives sont peintes à partir de 1814. Les scènes de guerre avec El Dos de Mayo, œuvre romantique par la couleur et l'élan, ou les peintures noires. 14 compositions peintes à partir de tons brun, gris, ocre, bleu, carmin, toutes précédées d'esquisses fantastiques où la mythologie, la libération des instincts et la sorcellerie s'expriment à plein. La série comprend entre autres Le Grand Bouc, Judith, La Lecture, L'Idiot du Village et Saturne dévorant ses enfants. Le néoclassicisme et le romantisme, 1750-1850. Issu des Lumières de la Révolution française, le néoclassicisme prévaut en Europe de 1770 à 1830. La peinture témoigne d'une volonté monumentaliste. La couleur y joue un rôle secondaire et les sujets sont empruntés à l'Antiquité. Elle prône le retour du nu et de l'anatomie. Le romantisme, qui chevauche cette période, se caractérisera par le désir d'exprimer les mouvements du cœur et de l'âme. Ces deux mouvements sont surtout représentés en France. Trois noms s'en détachent. Peintre de l'histoire, Jacques-Louis David inaugure la réaction contre l'art précieux et mièvre du XVIIIe siècle. Il veut mettre la peinture au service de ses idées révolutionnaires, tout en admirant l'art de l'Antiquité romaine. La Révolution déchaîne chez lui un enthousiasme républicain auquel on doit son serment du jeu de paume. Mais son exaltation politique lui fait à peu près complètement abandonner son art. Il propose à la Convention la suppression de l'Académie de Rome et vote la mort de Louis XVI. Quand Napoléon est sacré empereur, il nomme David son premier peintre et lui confie le soin d'exécuter son portrait et de reproduire divers épisodes de son règne. Représentant du classicisme, Jean-Auguste Dominique Ingres se détache de la nature et de la société qui l'ont façonné. La prodigieuse galerie de portraits qu'il a laissée constitue un miroir inégalable de la société bourgeoise à laquelle il appartenait et dont il trace les vertus et les limites. Malgré ses grandes compositions historiques au sujet tiré de l'Antiquité, c'est l'art du portrait et du nu féminin qui le consacre. La source, le bain turc, la grande odalisque. Romantique orientaliste, Eugène Delacroix se rattache au mouvement romantique par son sens de la mise en scène dramatique, puis l'insensibilité souveraine du prince, comme dans La mort de Sardanapale, jusqu'à la marche triomphale de la liberté guidant le peuple, à la fois femme du peuple et déesse de la victoire. Mais il demeure classique dans son goût des sujets empruntés à la mythologie ou à l'histoire ancienne. Théoricien autant que praticien, il expose dans son journal sa conception de l'art et le rôle décisif de son séjour en Afrique du Nord en 1832 pour le goût de la couleur préféré à la ligne et au dessin. La peinture réaliste, 1850-1900. Vers le milieu du XIXe siècle, le réalisme s'impose aussi dans les arts plastiques. Il combat, sans parvenir à les faire disparaître, la doctrine académique du classicisme qui s'en tient à des compositions d'objets et le romantisme avec ses motifs symboliques ou historiques. L'art réaliste emprunte ses motifs à la réalité et s'efforce de rester le plus proche possible du modèle naturel. Les motifs privilégiés sont le paysage dans son atmosphère naturelle et le portrait sans artifice, scène de travail ou de rencontre entre les hommes. Le tableau ne se fait plus dans l'atelier, mais dans la nature. Toutefois, cet idéal n'est pas toujours appliqué. Souvent, l'artiste ne fait en plein air qu'une ébauche à l'huile et termine son tableau dans l'atelier avec de légères retouches dans la composition. Le terme recouvre également une critique des conditions sociales. En France. En France, où l'ampleur que prit la Révolution de 1848 eut une grande influence sur le réalisme, ce mouvement est représenté par trois peintres principaux. Arrivé à Paris en 1841, Gustave Courbet copie Géricault, le Caravage et les peintres espagnols. En rupture avec l'académisme, son art permet la liberté du sujet et du motif qui aboutira à l'éclosion de l'impressionnisme. Courbet revendique explicitement le terme et la signification de réalisme. Célèbre insoumis du Second Empire, il met l'art au service de l'idée sociale et crée de grandes peintures emblématiques. Un enterrement à Ornans, L'atelier du peintre, Les casseurs de pierre, L'origine du monde. En 1828, le caricaturiste Honoré Daumier réalise ses premières lithographies pour le journal La Silhouette, avant de s'illustrer dans la caricature et surtout le Charivari, fondé par Philippon. Spécialement dirigé contre Louis-Philippe, ce journal va jouer un rôle important dans la vie politique de l'époque. L'impudence, alliée à un art consommé du dessin, confère aux caricatures de Daumier une immédiate célébrité. Elle lui vaut aussi d'être condamnée en 1832 à 6 mois d'emprisonnement. Ses peintures font une grande part à l'ombre. Né près de Cherbourg en 1814, Jean-François Millet gagne sa vie comme portraitiste avant de voir une de ses œuvres acceptée au Salon de 1840. Bouleversé comme tant d'autres artistes par la Révolution de 1848, il devient le peintre des paysans. Après 1860, les paysages vont prendre une grande place parmi ses sujets. Son inspiration doit beaucoup à Virgile pour son côté bucolique, à Bruegel pour la façon de peindre et au classicisme de Poussin. Les botteleurs de foin, les glaneuses, l'Angélus, le printemps.
Le saviez-vous? L'exil de Barbizon. En marge du réalisme, mais sensiblement à la même époque, se développe l'école de Barbizon autour de Théodore Rousseau. Son matérialisme se double d'une recherche métaphysique, à l'image de la lisière du Montgirard. En 1860, il travaille en juxtaposant des touches de couleurs pures, technique qu'il enseigne à Monet et à Sisley. Il s'installe à partir de 1847 dans le village de Barbizon, où il sera rejoint par Millet, Charles-François d'Aubigny, auteur du hameau d'Optevose, et Jean-Baptiste Corot, peintre de la cathédrale de Chartres et du pont de Mantes.
En Angleterre, le réalisme pictural de John Constable, 1776-1837, cherche à s'affranchir de la tradition. Il se soucie seulement de la réalité. Il est le père du vérisme en peinture. Longtemps mythifié ou idéalisé, la nature devient naturelle avec lui. Paysagiste, son travail repose sur des esquisses faites à l'extérieur puis retravaillées en atelier, le chariot de foin. C'est la lumière changeante des ciels humides qui le fascine. Elle est pour lui le véhicule principal du sentiment. Les nuages, les arcs-en-ciel et les reflets sur l'eau sont ses thèmes de prédilection.
Le saviez-vous? Au feu les pompiers. Au milieu des écoles nouvelles, un style officiel se maintient, qui a nettement les faveurs des critiques et du public. Art issu du néoclassicisme, cet académisme prit le nom d'art pompier, allusion aux personnages casqués de certaines compositions et à un style chargé, très théâtral, artificiel. C'est l'aboutissement du système des académies royales, créé par Louis XIV, qui redoutait le pouvoir subversif de l'art. Thomas Couture et ses grandes compositions historiques, les Romains de la décadence par exemple, Alexandre Cabanel et ses nus, Jean-Louis Ernest Meissonnier et ses scènes de la vie militaire en sont les représentants.
L'impressionnisme et ses suites. Fin du XIXe siècle. À la fin du XIXe, un style révolutionnaire fait irruption dans la manière de peindre pour lequel les sujets représentés ne sont plus l'essentiel. La peinture d'objets en mouvement ou en transformation, la mise en valeur des couleurs et leur juxtaposition en ton pur, sans intermédiaire, le caractérise. Autre changement, on ne prépare plus la composition par une multitude de dessins. Le 15 avril 1874, le photographe Nadar prête son atelier à Monet, Sisley, Renoir, Cézanne, Pissarro, qui organisent une exposition de leurs tableaux refusés au salon. D'après le titre de l'un des tableaux de Monet, Impression Soleil Levant, le surnom d'impressionniste leur est donné. Cette révolution picturale en entraîne d'autres. L'impressionnisme. Le groupe des Batignolles est le nom donné aux impressionnistes de 1869 à 1875, époque où ils fréquentent le café Gerbois, deux grandes rues des Batignolles. Les peintres constituant le noyau du groupe sont les suivants. Édouard Manet se révolte très vite contre l'enseignement classique de l'atelier de Thomas Couture. La peinture espagnole lui fournit sa source d'inspiration. Au salon de 1865, son Olympia fait scandale car il met en scène une courtisane. Dans Le déjeuner sur l'herbe ou Le fifre, il traite les plans presque en aplat et fait contraster violemment teintes claires et sombres. L'influence des maîtres japonais de l'estampe, surtout Hokusai, joue un rôle primordial dans les compositions d'Edgar Degas, fasciné par le monde de la danse qu'il rend sous tous les angles possibles. La multiplicité des mouvements des danseuses permet aux peintres de mieux cerner leur espace, l'évolution de l'ombre et de la lumière sur leurs vêtements de scène. Danseuses à la barre, danseuses saluant. Ils ne dédaignent pas pour autant le réalisme domestique, les repasseuses, les modistes.
Le saviez-vous? Estampe japonaise. En 1854, à la suite des premiers traités commerciaux signés avec le Japon, la culture nippone se diffuse en Occident. les expositions universelles, celle de 1862 à Londres ou celle de 1878 à Paris, qui présentent des objets religieux de la collection d'Émile Guimet, suscitent le goût de l'exotisme. Influençant les peintres de l'époque, les estampes accaparent l'intérêt au même titre que les laques et les porcelaines. Les œuvres d'Utamaro Kitagawa, grand maître de l'estampe, et d'Hiroshige, graveur et peintre, sont présentées à Paris.
Claude Monet se fait installer un petit atelier flottant sur un bateau afin de saisir au mieux les aspects changeants d'un paysage de bord de fleuve. Le peintre veut que son sujet soit non seulement ébauché, mais achevé sur place sans recours à l'atelier. En 1872, il peint au Havre Impression soleil levant. Entre 1880 et 1890, il consacre une série de tableaux à la cathédrale de Rouen, à différentes heures du jour et selon différents points de vue. Il laisse aussi une centaine de tableaux du brouillard sur la Tamise. Pierre-Auguste Renoir peint dans le Moulin de la Galette, 1876, à la fois les joies des fêtes populaires et des figures de personnages typés. Il veut rendre sur ses toiles l'atmosphère de la fête, le mouvement de la foule qui valse, la chaleur d'une journée estivale. Pour parvenir à rendre toutes ces impressions, Renoir utilise l'estompement des contours afin de fondre les couleurs et les formes.
Un peu de technique, une technique bien huilée. Le peintre flamand Jan van Eyck, 1390-1441, serait l'inventeur de la peinture à l'huile. Selon cette technique, les couleurs sont mélangées à l'huile et à des essences, à partir d'une huile végétale, de lin ou de colza. La peinture se dilue ensuite à l'essence de térébenthine. Son support habituel est la toile de lin, mais aussi le bois ou l'aggloméré. Les tableaux des impressionnistes ont été peints avec des huiles trop grasses, ce qui pose de nos jours des problèmes de conservation.
Le post-impressionnisme. Après un rapide passage chez les impressionnistes, Paul Cézanne, 1839-1906, retourne dans son Aix-en-Provence natale. Ses revenus personnels lui permettent de vivre sans avoir à vendre ou à chercher à le faire. Grand admirateur des classiques, Cézanne veut trouver le moyen de joindre à la rigueur de leur composition apprise en atelier le contact direct avec la nature comme le veulent les impressionnistes. Il peint par exemple Nature morte, la montagne Sainte-Victoire et les grandes baigneuses. Néerlandais d'origine, Vincent van Gogh connaît en France une existence brève et très mouvementée, s'attachant aux paysages des régions d'Arles et d'Auvers-sur-Oise. Ses principaux chefs-d'œuvre sont peints en décembre 1888, à son suicide en janvier 1891. S'inspirant directement de l'impressionnisme, il développe les couleurs en les posant sur la toile par touches successives, par points, qui donneront par la suite naissance aux écoles tachistes et pointillistes. Il a aussi recours à l'épaisseur pour exprimer le mouvement, les convulsions des arbres, des cieux, des toits d'église. Une modification des formes exactes, si elle est de nature à mieux rendre l'émotion, lui semble nécessaire.
Un peu de technique. Un point, c'est tout. Le pointillisme, également appelé néo-impressionnisme, a été mis au point au XIXe siècle par Georges-Pierre Seurat, le peintre du cirque et d'un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, et illustré notamment par Paul Signac, 1863-1935, l'orage. Le mot divisionnisme s'emploie plus particulièrement pour le mouvement italien issu de ses recherches, dont la caractéristique est de remplacer les points par les lignes.